Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Vous le savez, c'est la seule émission de radio en France et au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et je rappelle que vous nous écoutez aujourd'hui, en ce samedi, depuis la boutique Nicolas située à Avignon, au 162 avenue Pierre Sémard, sur 95.2. N'oubliez pas non plus de réagir sur les réseaux sociaux, le compte Instagram Invino Sud Radio, pour nous faire partager vos coups de cœur aujourd'hui. Un très joli programme qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure, non pas un, mais deux invités, Vincent Clément, sommelier, et Maxime Boutier, chef du restaurant Geospin dans la capitale. Et puis le Vino Quiz, très important, pour gagner un coffret gourmand offert par le cercle Wine Business. À mes côtés, on a beaucoup de chance aujourd'hui pour nous accompagner Christelle Tarré, première femme maître caviste de France. Bonjour Christelle.
Bonjour Alain.
Et Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure.
Bonjour Alain.
Pour bien commencer cette émission de Invino Sud Radio, on a le grand bonheur, le plaisir d'accueillir un premier invité, Grégoire Oppenau, qui est vigneron dans le Beaujolais. Bonjour Grégoire.
Bonjour Alain.
Alors il est où votre Beaujolais? Parce que c'est grand cette belle région là.
Alors je suis vigneron depuis 2018 sur Fleury, ouais. Avec 9 hectares de Fleury, et j'ai repris il y a 2 ans une propriété dans le sud du Beaujolais.
D'accord.
Où là j'ai commencé à planter des vignes depuis 2 ans, les premières rentrent en production cette année. Ouais. Donc, il y a 2 sites de production, Fleury et en Beaujolais, appellation régionale. Bon, dans le sud.
Racontez-nous un peu votre vie, là. Vous êtes né en 1983, vous avez commencé par le commerce et le management, puis un jour, vous avez trouvé la voie de la raison ou du raisin, vous êtes devenu vigneron.
Un peu les deux. Je suis de formation ingénieur agri, donc déjà, il y a une fibre agricole. Et approchant 35 ans, j'avais envie de devenir paysan. Étant passionné de vin.
Pourquoi paysan à 35 ans, c'est génial, quoi.
Parce que, comme beaucoup de gens, je pense, de ma génération.
Recherche de sang.
Voilà, le truc.
Perte des cheveux.
Très bobo, perte des cheveux. Retour aux fondamentaux, recherche de sens à son métier. Et surtout, j'ai souvent vendu des vins, beaucoup qui me plaisaient, certains qui me plaisaient moins. Ouais. Donc, recherche aussi d'un peu de cohérence dans ma vie. Et puis, voilà, avoir un métier physique. Je suis très sportif de nature.
Qu'est-ce que vous pratiquez ce soir?
Maintenant, plus grand chose. Ça me suffit beaucoup la vigne.
La taille, c'est du
voilà,
sport.
La vigne, surtout par chez nous, sur les coteaux, non mécanisables, c'est beaucoup de sport. Mais avant, je faisais du rugby. Après, j'ai beaucoup couru. Je faisais du cheval. Et maintenant, je pense que le travail à la vigne me suffit amplement.
Oui. Suffisant. Laure.
En fait, je me posais la question sur la façon dont on fait pour pouvoir planter des vignes. Parce que d'un côté, on nous demande d'arracher, d'un autre, on a le droit de planter. Comment ça se passe, les droits de plantation, aujourd'hui?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est soit, effectivement, on arrache pour replanter. Donc là, on a des droits de plantation. Donc là, effectivement, notamment des appellations qui sont en tension, sur lesquelles il y a plus de volonté de planter que d'arracher. Là, on ne peut pas planter sans avoir les droits de plantation.
Donc ça signifie que dans le sud du Beaujolais, c'est très dynamique et au point qu'on peut planter...
Aujourd'hui, on a arraché plus de 50% du vignoble sur ces 20 dernières années dans le sud du Beaujolais.
Arraché pour replanter?
Pour replanter, mais sauf qu'il y en a très peu qui ont été replantés. Beaucoup ont été replantés pour faire des crémants de Bourgogne.
Oui.
Et aujourd'hui, très peu sont replantés pour faire du Beaujolais. Oui. Donc moi, dans le sud du Beaujolais, alors dans le nord du Beaujolais, à Fleury, je restructure. Donc là, j'arrache pour replanter d'une autre façon.
C'est-à-dire que vous mettez des arbres au milieu des vignes, que vous restructurez
non,
de quelle façon?
Non, alors, restructuration, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème du nord du Beaujolais, c'est qu'on a dégoblé 10 000 pieds hectares, 7 bas, des coteaux, donc des vignes qui sont non mécanisables. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de travailler en bio. Et en bio non mécanisable, c'est on fait beaucoup de binettes, donc on a des coûts d'exploitation qui sont énormes. Mmh. Donc l'idée, c'est mes vignes qui ne sont plus assez productives, je les arrache pour les replanter, baisser un peu les densités, pour apporter du végétal dans la vigne et pouvoir mieux travailler nos sols. Dans le sud du Beaujolais, c'est différent. C'est que là, on a vraiment beaucoup de vignes qui ne sont plus plantées. Donc là, j'ai repris une page blanche. Et là, je m'éclate. Je plante les cépages que je veux.
Vous avez l'air heureux, Christelle.
Et justement, donc, pourquoi avoir planté du Pinot Noir et du Chenin sur vos sols?
Sur le sud Beaujolais, si je veux reprendre des vignes de Gamay, il y en a plein. On est principalement sur des argilo-calcaires. Les argilo-calcaires, c'est pas pour rien que Philippe Lardy a viré les gamets de la Bourgogne, parce que c'est pas forcément un cépage qui est le plus adapté aux argilo-calcaires. Sur les argilo-calcaires, je trouve que le pinot a toute sa place. On a des calcaires de griffés, donc pour faire des super chardos. Et le chenin, c'est juste que j'aime le chenin.
D'accord.
Il y a une vraie demande de blanc aussi.
Il y a une demande de blanc, et je pense que comme beaucoup de vignerons qui sont pas du métier de la filière, qui sont pas fils de vignerons, on a un métier qui est suffisamment difficile, il faut trouver du plaisir. Et le plaisir de boire.
Et vous prenez votre pied avec votre chenin.
Bah le chenin, première récolte cette année, donc j'ai pas encore vinifié de
avec
chenin.
Avec le chardonnay aussi, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent de parler des Beaujolais blancs. Voilà. Alors que vous avez une proportion, par exemple, produisez combien en pourcentage sur votre production?
Aujourd'hui, moi, c'est que des jeunes vignes. Les chenins, ouais. les chardos, c'est un nouveau projet, c'est des jeunes vignes. Aujourd'hui, en production, je suis que sur du gamay, sur fleury. Ouais. Après, ça va faire à peu près deux tiers, un tiers. L'objectif, c'est deux tiers, un tiers.
Vous nous rappelez d'ailleurs le temps entre le moment où vous plantez une vigne et le moment où vous commencez à récolter les premiers petits raisins.
Il faut trois ans pour avoir une petite récolte. Ouais. En fait, tout dépend de nos sols. Sur des sols pauvres, il vaut mieux attendre un peu plus longtemps. Ouais. Sur des sols un peu plus riches, on a des vignes qui sont un peu plus vigoureuses. Donc là, au bout de 3 ans, on commence à avoir une première récolte.
Laure ?
Oui, je voulais revenir à Fleury, qui est une appellation que j'aime beaucoup. Je crois savoir qu'il y a eu un dépôt de demande de premier cru pour valoriser les terres.
Oui, tout à fait. En fait, Fleury, c'est une appellation où on a un gros historique de revendication de lieux-dits. Aujourd'hui, il y a plus de 35 lieux-dits qui sont revendiqués par le vigneron sur Fleury. Et parti de ce constat, et du constat aussi du fait qu'on doit mieux valoriser nos vins, on s'est dit pourquoi pas reprendre finalement la classification pyramidale bien connue dans le monde du vin, avec les premiers crus, les appellations villages, les appellations régionales, pour pouvoir mieux valoriser les vins et puis tirer un peu notre région vers le haut. Donc cette année, on a déposé, après 10 ans de travail, on a déposé auprès de l'INAO un dossier pour classer certains lieux-dits en premier cru.
Donc, et comment les agents de l'INAO ont pris ce dossier? Et vous pensez que ça peut avoir gain de cause?
Alors nous, on s'est vachement appuyé sur ce qu'a fait Pouilly-Fussé il y a quelques années déjà, pour présenter un peu un dossier clé en main. Donc ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Donc on a fait beaucoup de dégustations, on a fait de grosses études bibliographiques, on a fait aussi grosses études de sol, ce qui nous a permis de classer les lieux-dits par ordre. Donc on a donné des notes en fonction de différents facteurs et on a validé ce classement en assemblée générale l'année dernière du cru Fleury.
Et tous les vignerons étaient d'accord? L'union sacrée.
Il y avait plus de 90% des vignerons qui étaient d'accord.
Mais en fait, dictature africaine là.
Ça coulait de source.
Ça vous fait combien de premiers crus?
Donc là, il y a 7 lieux-dits qui ont été proposés en premier cru, ce qui représente à peu près 20% de l'appellation.
D'accord. Et c'est justifié, selon vous, ils sont meilleurs que les autres?
Meilleurs, non, mais en tout cas, c'est ceux qui ont la meilleure bibliographie, c'est ceux qui ont la meilleure notoriété.
Ouais. Effectivement, ils sont différents, quoi. C'est ce que
sur
vous
les 7, il n'y a pas eu débat. Après, il y a eu certains lieux-dits où on s'est dit, pourquoi pas mettre celui-là, pourquoi mettre celui-là. Mais là, il y a des échanges avec l'INAO qui font que peut-être d'autres rejoindront le cercle.
Laure ?
Alors que le premier cru, justement, doit avoir une sorte d'évidence et pas d'être discuté, c'est clair.
En tout cas, ça n'a pas été discuté. Donc là-dessus, on était plutôt contents.
Christelle, à votre avis, en tant que caviste, avec Christelle Caviste, le fait qu'il y ait des premiers crus en Beaujolais, est-ce que c'est une bonne chose pour le consommateur? Est-ce que ça va le perdre un peu plus? Ça va permettre, en tout cas, aux vignerons de vendre un peu plus cher, donc de mieux gagner sa vie, de mieux valoriser?
Moi, je trouve que c'est très bien parce que, justement, on a besoin de parler du terroir, déjà, du Beaujolais, qui est assez méconnu du grand public, qu'on connaît surtout le Beaujolais nouveau. Donc, ça va permettre de s'interroger, de poser des questions. Et après, c'est à nous, les professionnels, de prendre le relais et d'expliquer pourquoi des premiers crus. Voilà. Donc, non, je trouve ça très bien.
Laure.
Oui, je voulais savoir, est-ce que vous trouvez du personnel pour planter? Parce que faire du bio, c'est bien, mais en même temps, il faut trouver quelqu'un pour aller biner, comme vous disiez tout à l'heure.
Alors, clairement, nos saisonniers, on les garde qu'un an.
Et c'est vraiment une
saison. Ils ne reviennent pas d'une année sur l'autre parce que
Pourquoi vous laissez un burn-out?
Oui, c'est vraiment du travail qui est ultra physique. Ouais. Même si je préviens en amont, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que ramasser.
Parce que ce
ne
sont pas des gens du terroir qui ont envie de rester, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs.
Mais le terroir, plutôt des pays de l'Est, non?
Moi, plus pas des pays de l'Est, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'étrangers. J'ai eu des Italiens, j'ai eu des Espagnols, des Grecs l'année dernière. C'est vrai que c'est beaucoup d'étrangers. C'est difficile de trouver des saisonniers. Après, trouver des salariés permanents, on en trouve. Et justement, parce que c'est aussi beaucoup de... Il y a une nouvelle génération de travailleurs qui cherchent à avoir un peu de sens dans leur métier. Oui. Donc c'est vrai que le bio attire. Même si le travail est très physique, le bio attire plus que les conventionnels.
Christelle ?
Beaucoup de propriétés sont en bio, justement, dans le Beaujolais ?
Très peu, et c'est pas pour rien. Très peu, de plus en plus, mais très peu, et c'est pas pour rien, parce qu'on a des hautes densités de plantation, des ceps bas, donc c'est peu mécanisable, donc très difficile à bosser nos vignes sans herbicides. Donc même si j'ai fait le choix d'être en bio, je blâme pas du tout les vignerons qui bossent avec des herbicides, parce que je sais le travail que c'est, et surtout les coûts de production. Aujourd'hui, quand on trouve une bouteille de Fleury, de Morgon, à 20 euros chez un caviste, ou à 15 euros chez un caviste, elle peut difficilement être en bio. Parce qu'on a des coûts de production qui sont plus importants qu'en Champagne et en Bourgogne.
Grégoire, pour terminer, la gamme de prix chez vous, ça va de combien à combien sur les vins aujourd'hui et peut-être ceux de demain d'ailleurs?
Ça va de 16 pour ma cuvée origine, qui est une cuvée d'assemblage de différentes parcelles, à 26 euros pour les cuvées parcellaires.
D'accord. Et alors pour la température de service, ça c'est aussi important. Je sais que ça tient à cœur de Christelle. Ça, de combien à combien sur les blancs et sur les rouges? À combien on les sert?
Sur les rouges, pas trop chaud surtout. 15-16 degrés, je trouve que c'est le max.
Merci beaucoup Grégoire. Il y a un site internet, une adresse pour vous retrouver?
Oui, j'ai mon domaine à un site, domaineopneau.com.
Voilà, très bien. Merci, comme ça se prononce. H-O-P-E-N-O-T. Merci Laure et Christelle. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Avignon. Il y a beaucoup de boutiques, notamment celle qui est au 162 avenue Pierre Sémard sur 95.2. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, le compte Insta Invino Sud Radio. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir maintenant à 13h-13h15 deux invités, Vincent Gleyman et Maxime Boutier du restaurant Géosmine à Paris. Bonjour à tous les deux. Alors déjà, il est situé où ce restaurant, Vincent ?
C'est un restaurant qui est situé dans le 11e arrondissement, rue de la Folie-Méricourt, proche de la place de la République.
Donc c'est un quartier qui est quand même plutôt sympa. Maxime, un mot sur votre parcours. Vous êtes originaire de la Sarthe, vous avez découvert l'univers agricole grâce au tonton qui était boucher charcutier à Rungis, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. J'ai arrêté l'école après le collège et puis j'ai fait une quinzaine d'années en étoilé. Et ça a commencé par quelques stages chez mon oncle, c'est ce qui m'a donné envie. Et puis j'étais pas trop... cursus scolaire classique, donc je suis parti faire un truc de mes mains.
Ouais, et alors BEP cuisine, mais aussi pâtisserie, quoi. Vous avez deux passions,
mention,
on va dire.
Mention complémentaire en pâtisserie, BEP en cuisine, et j'ai même fait une année de salle. Donc ça, personne, enfin peu de gens le savent, mais j'ai fait de la salle aussi pendant une année.
Ouais. Ah, vous avez compris comment ça marchait le terrain, quoi. Alors quelques souvenirs, tiens, il y a plein d'établissements sympas. Par exemple, le Beaulieu au Mans, c'est un bon souvenir ou pas?
Oui, c'est un bon souvenir. Bah, c'était des maisons un petit peu à l'ancienne, mais c'était le seul étoilé de la Sarthe à l'époque. Donc c'était une belle maison, puis ça permettait de faire beaucoup d'événementiel, parce que vu qu'en étant le seul étoilé, on couvrait beaucoup d'événements, les 24 heures, pour des grosses marques comme Rolex, Porsche, voilà. Donc ça nous faisait faire pas mal de choses extérieures, c'était chouette, ouais.
Et vous avez également travaillé en Angleterre, là, chez les gardiniers, en tout cas maintenant gardiniers, chez Taïwan. C'était super, ça, non ?
Ouais, c'était cool, et puis c'était... il y avait beaucoup de recherches sur quelle offre produire pour un restaurant français avec un nom dans un pays qui n'était pas le nôtre, et sur un lieu qui était très différent aussi, puisqu'on était en plein Marylebone, juste à côté à Cavendish Square, juste à côté d'Oxford Street. On trouvait souvent plus des petites boutiques qu'une grosse boîte comme le Taïwan, donc il a fallu chercher notre offre, et c'était intéressant, c'était cool.
Vous parliez anglais avant d'arriver chez nos amis anglais?
Ni en arrivant ni en partant.
Vous ne parlez pas anglais, c'est vrai?
Non, pas trop. Non.
Bordeaux, il y a eu beaucoup d'anglais, mais c'était longtemps. Vous avez fréquenté le pressoir d'argent, c'est ça?
C'est ça, le pressoir d'argent, avec Pascal Nibaudeau à l'époque, et la jonction avec Gordon Ramsay après, obtention 2 étoiles. Et puis j'ai fait aussi la réouverture de Duberne, qui était une maison emblématique, Place Tourny à Bordeaux, après des années de travaux. Je crois que maintenant c'est des Chinois qui ont racheté ça, mais on avait réouvert une brasserie un peu luxe, et moi j'étais en pâtisserie en tant que sous-chef, avec un chef pâtissier qui était Alexandre Oliver, qui est le petit-fils de Raymond Oliver.
Ah oui, Raymond Oliver, pour les plus vieux auditeurs de l'émission.
Voilà, un des premiers à avoir fait des recettes de cuisine à la télé.
Et vous êtes passé après de Bordeaux à Arles?
C'est ça, de Bordeaux à Arles, chez Rabanel, une année intense, très intense, trop intense.
Et puis, trop intense?
Trop intense. Ouais, bah, 7h, 2h du matin, ouais, c'était un peu
c'est chaud quand même, quoi. Ouais. Et après, vous montez à la capitale, c'est ça?
C'est ça. Après Rabanel, je suis parti à Londres. Et après Londres, je suis parti à Tahiti pour une ouverture, pour une réouverture de palace, pour le développement d'un pôle gastronomique.
Vous n'avez pas un peu la bougeotte, Maxime, quand même?
Non, en fait, j'ai fait entre 1 et 2 ans chaque boîte. Mais en cuisine, c'est important de bouger beaucoup pour apprendre et la cuisine d'un chef et la cuisine d'une région.
Oui, la culture
mais
aussi.
Mais en fait, si on y reste trop, on en est trop imprégné. Donc je pense qu'après, on fait plus notre cuisine.
Voilà. Alors vous, Vincent, comment vous êtes sommelier, donc le monde du vin, vous l'avez embrassé comment? Vos parents étaient dans les vins spiritueux, c'est le hasard complet? Vous n'avez pas été pris dans l'eau, vous êtes passé au vin?
C'est plutôt plus un hasard, c'est-à-dire que je viens d'une famille qui boit du vin, mais qui n'était pas forcément des grands connaisseurs, des amateurs en tout cas.
Vous êtes originaire d'où ?
De la région parisienne.
D'accord.
C'est pas forcément un grand terroir viticole à la base.
À une époque, oui, quand même. Et puis le vin de Suresnes a fait beaucoup de progrès, quoi.
Et on est en train d'y revenir un petit peu, c'est en train de se redévelopper, mais dans le monde du vin, j'y suis venu plus ou moins sur le tard quand j'avais déjà 21 ans, mais c'était par un hasard complet, c'est quand je travaillais à Mexico.
À Mexico, vous avez travaillé. Voilà.
Donc j'ai commencé très tôt la
Comment
restauration.
Comment s'appelle cette grande avenue là? C'est la Révolution, passée aux
Tout à
réformes,
fait, exactement. Ouais. Ouais. L'avenue de la Révolution, mais qui n'est pas forcément le centre névralgique de la gastronomie à Mexico.
Ouais.
Mais non, donc c'était un hasard de parcours où la restauration est venue très tôt, mais j'ai mis un peu de temps à y venir complètement professionnellement. J'ai longtemps fait ça à côté des études. Et c'est en allant m'installer en Amérique latine et à Mexico que j'ai décidé de bosser.
Combien de temps vous avez vécu là-bas?
À peu près un an.
Un an. Tiens, on parle des vins mexicains. L'émission existe depuis 20 ans, on n'en a jamais parlé. En Basse-Californie, il y a des super vins, non?
Il y a des très belles choses qui se font en Basse-Californie. Vous avez de plus en plus de domaines qui émergent, parfois parrainés aussi par des vignerons, des viticulteurs de d'autres pays. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer énormément. Vous avez même le premier domaine à bosser, on va dire complètement sans chimie, qui a été représenté cette année à la Dive Bouteille,
ah ouais,
en Loire,
ouais,
qui présentait leur vin, le domaine Bitchy.
Et alors vous êtes sommelier, là parfois les gens confondent un sommelier et un œnologue, c'est pas la même chose, hein?
Ce n'est pas le même métier. L'œnologue, il travaille en domaine, il est là pour faire les vins, il est là pour accompagner les vigneronnes et les vignerons au jour le jour dans leur domaine. Le sommelier, moi je suis là pour faire un lien entre les vigneronnes, les vignerons, et le client, le consommateur
au
final.
Vous êtes quand même copains les deux, entre un sommelier et un œnologue, ça rame dans le même sens si je puis dire. Hein.
On va dire que le monde du vin c'est un grand...
Et vous avez fréquenté pas mal d'établissements avant d'arriver dans l'11e?
Alors, avant d'arriver dans le 11e, non, parce que mon premier poste dans le vin c'était effectivement dans le 11e arrondissement, c'était au restaurant Le Clown Bar.
Ah d'accord, oui.
Où j'ai travaillé pendant un an, je suis passé aussi par le restaurant Sauvage dans le 6e arrondissement, avant de revenir à nouveau dans la rue Amelot dans le 11e au restaurant Chorus, où on s'est rencontrés à l'époque avec Maxime, avant du coup d'accepter de prendre le poste chez Geosmin.
Geosmin, alors Maxime, racontons d'abord le lieu, il est assez étonnant, hein, c'est entre la maison de ville et la galerie quoi.
Ouais c'est ça, c'est une petite maison en meulière qui est un restaurant, c'était le restaurant botanique qui existait pendant environ 5 ans. Le Covid a fait un petit peu de tri, et avant botanique c'était un atelier textile, c'était un atelier chinois qui faisait de la fabrication de sacs à main.
Sacs à main quoi.
Ouais exactement.
Donc, et aujourd'hui le resto il y a combien de couverts?
On va dire que d'une traite on pourrait asseoir une quarantaine de personnes, on essaie de se limiter à 35 et dans pas longtemps à 30 parce que les journées sont un peu costauds. Là.
Un peu costaud. Vous êtes ouvert le midi et le soir c'est ça?
5 soirs et 3 midi.
5 soirs et 3 midi. Et combien de personnes au total vous travaillez?
En staff, ouais. Entre 10 et 12.
10 et 12. Alors, on définit un peu votre cuisine. Quand on vient chez vous, là, pour vous rencontrer, qu'est-ce qu'on peut trouver comme bon plat? Qu'est-ce que vous aimez travailler? C'est quoi votre philosophie de la cuisine, Maxime?
C'est délicat parce qu'on a des mises en bouche et des desserts, et un dessert qui sont des traceurs et milliardistes, voilà, qui sont des traceurs qui restent un peu tout le temps, un peu signature. Le reste, ça dépend vraiment du marché, quoi. Le soir, on voit ce qu'on a reçu comme proposition des producteurs, des pêcheurs, de tous les collaborateurs qu'on a. On commande pour le lendemain et le lendemain on voit ce qu'on en fait quoi.
Ouais, donc c'est au quotidien quand on
là
change.
On a stagné, il n'y a pas eu de grosse évolution là par exemple pendant 8 semaines parce qu'en fait le temps c'est une catastrophe, donc par exemple pour le moment on est un peu sur les mêmes choses. Dès que le soleil va arriver ça va changer, des fois on peut changer 3 plats semaines comme des fois on peut ne pas les toucher pendant 3 semaines, voilà, ça dépend vraiment de la pas des saisons parce qu'il y en a plus trop mais plutôt de la météo quoi.
La météo quoi, et la génétique pâtisserie là elle est toujours très forte chez vous?
Toujours très forte, alors on a changé de... on avait une pâtissière qui était avec nous depuis l'ouverture, oui. Qui est partie il y a une semaine, donc on a récupéré la sous-chef du Clarence qui a commencé chez nous il y a 3 jours. Ça va nous permettre de remettre un peu de niveau. Moi, de toute façon, je suis sur la conception aussi des desserts, mais voilà, au moins d'avoir une personne avec encore plus de compétences, qui a le même âge aussi que moi.
Donc, oui. Vous avez quel âge?
31.
Bravo.
Donc, merci. Donc, du coup, voilà, on va pouvoir pousser un petit peu plus ce travail là-dessus encore.
Et la gamme de prix, ça va de combien à combien? Vous avez des formules menu, c'est à la carte, parce qu'on aime beaucoup chez vous, mais combien ça coûte?
Alors, le soir, c'est 140 euros.
D'accord.
Voilà, il n'y en a plus qu'un. Avant, il y avait 109, 139. Le 139 est passé à 140 et il n'y en a plus qu'un.
Voilà. Il y en a
le
plus
soir,
qu'un.
C'est 140 euros. Et le midi, on peut manger à la carte. Donc,
d'accord.
Pareil, dépendant des cours, hein, le poisson, la viande, ça va dépendre du prix d'achat. Le prix de vente est fait par rapport au prix d'achat. Donc, on va dire qu'un midi, il n'y a pas de formule. Si on mange à la carte, entrée, plat, dessert, on est entre 52 et 65 euros.
Oui,
ça
c'est
dépend.
Raisonnable, ouais.
Et après, on a 2 menus de dégustation le midi. Un premier qui est à 80 euros on va dire, entre 5 et 7 plats. Ça dépend, voilà, des choses. Et puis, on a un deuxième dégustation à 119 euros, on va dire un plus petit et un plus grand.
D'accord. Et alors, vous, Vincent, la carte des vins, vous l'avez concoctée comment? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme pépite chez vous?
C'est assez large. On a voulu, avec le chef, avoir une sélection qui soit représentative.
D'abord, est-ce que le chef aime le vin? Parce qu'il y a plein de chefs qui s'en foutent du vin.
Le chef est passionné de vin. Ça,
bon,
c'est aussi une grande chance quand on est sommelier d'avoir un interlocuteur comme ça en face de soi, quand on a le chef de cuisine qui aime ça et qui en a envie, et d'autant plus quand il est aussi le
propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonne bouteille que vous pouvez nous conseiller sur les trois couleurs ou sur les bulles, pourquoi pas?
Sur les trois couleurs, bah, c'est assez grand. On a une sélection, que ce soit des champagnes avec des, notamment principalement des petites maisons, des petits vignerons indépendants.
Lequel, par exemple, un coup de cœur sur une maison de champagne?
Bah, vous voyez, tout récemment, on vient de commencer à travailler avec Benoît Marguet.
D'accord.
Qui est un vigneron champenois basé à Ambonnet. Vous avez des maisons un peu plus emblématiques dans notre milieu, comme des gens comme Emmanuel Lassaigne aussi, qui sont à Montgueux. Voilà, on essaie de recouper aussi tous
et
les vignerons.
Et un vin, alors, un vin hors bulle, votre dernier coup de cœur qu'on peut trouver à la carte?
Un vin hors bulle, je parlerai de Carsten Salvachter, qui est un très jeune vigneron allemand qui a repris son domaine familial il y a seulement quelques
découvrir.
Années.
Combien vaut la bouteille sur carte?
Ça va de chez lui de 105 à 280 selon la cuvée.
Avec un grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas tous les deux, Vincent et Maxime. Vous nous rappelez l'adresse du restaurant? Il est où ce resto qu'il ne faut pas louper?
71 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e.
Merci beaucoup également à Grégoire Opneau et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr. InVinoRadio.tv, les comptes Facebook ou le compte Insta, et on se retrouve demain. Demain, ça sera à 13h précise pour un nouveau numéro, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. On recevra un très joli plateau aussi avec Véronique Dos, qui est directrice générale d'un excellent château. Je ne sais pas si vous l'avez à la carte, le château Félan-Ségur dans le Bordelais, ainsi que Ingrid Coiffet, dirigeante de Dionysa. D'ici là, excellente suite de samedi. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, ukrainiens et arméniens, et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.